C'est un grand plaisir pour nous à chaque fois qu'on a l'occasion de s'entretenir avec Georges St-Pierre, de l'accueillir aux amateurs de sport. Une journée sans doute, puis il en a vécu des journées spéciales dans sa vie. Je sais pas où est-ce que ça se place dans tout ce qu'il a justement vécu, dans tout ce qu'il a reçu comme honneur, mais d'être honoré dans sa patrie natale, telle que Georges St-Pierre l'a été aujourd'hui à Saint-Isidore, avec le dévoilement d'une œuvre d'une artiste, une sculpture, un bronze. On a le plaisir d'avoir Georges au bout du fil. Salut Georges, comment vas-tu?
Ben, ça va super bien, merci. C'était toute une journée pour moi, tout un honneur. Parce que c'était quelque chose qui va rester là. C'est un monument qui va rester là pendant longtemps. Puis que même après ma mort, si c'est bien entretenu, ben ça, j'espère que ça va pouvoir inspirer des générations à venir.
Wow, ouais, c'est quelque chose hein, de penser à l'héritage qu'on laisse puis de pouvoir en profiter de son vivant, Georges. Qu'est-ce que ça te fait de te voir dans une œuvre comme ça? Est-ce que c'est la première fois que tu te vois? Tu t'es peut-être vu dans des peintures, dans des photos, mais une sculpture comme ça, là?
Ben, c'est Thali, celle qui a fait la sculpture. C'est une artiste, elle est vraiment très douée. Et puis, je faisais des blagues, j'ai dit Thali, t'as enlever mes défauts comme mes oreilles tout croche puis tout ça, t'aurais pu me faire mieux paraître, puis elle riait parce que j'ai dit c'est vraiment une belle statue, tu sais, c'est vraiment bien fait, puis je suis vraiment très heureux.
Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être honoré dans la ville qui t'a vu naître et grandir, Georges?
Ben, je suis très heureux parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai le support de ma famille, de ma communauté. Alors, c'est parfait pour mettre cette statue-là dans ma municipalité. C'est Saint-Isidore. C'est pas une ville, c'est une municipalité. Il y a 3000 habitants qui habitent là, je pense. Alors, c'est une petite ville, mais là, je suis content. Les gens vont pouvoir y aller, prendre des photos. Puis, je suis certain que ça va amener les gens à y aller ça va amener du monde à Saint-Isidore, là. Puis, ça va être bon pour le village.
À quel âge as-tu quitté, as-tu volé de tes propres ailes et quitté Saint-Isidore? Et à quel moment le rêve de ce que tu es devenu est né?
Le rêve a commencé quand j'avais environ 16 ans. Quand j'ai eu ce rêve-là, en fait, moi, environ vers 16 ans, quand j'ai eu mon permis de conduire, j'étais aux études au Cégep Édouard Montpetit. Puis j'ai déménagé en appartement vers 16, 17, peut-être 18 ans dans ce bout-là. Et c'est là que j'ai quitté Saint-Isidore, mais je garde toujours le pied à Saint-Isidore aussi parce que j'y retourne voir mes parents à chaque semaine. Là, c'est sûr que c'est le COVID, alors les choses ont changé, mais normalement, j'ai toujours été là une fois par semaine. Je garde le contact avec la famille.
Et tu gardes la forme en plus du contact. Je vois comme des millions d'autres à travers le globe, là, tout ce que tu publies sur Instagram. T'as pas lâché, Georges. La retraite des sports de combat, pour toi, signifie pas évidemment pas la retraite de l'entraînement. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te motive à rester au top de ta forme comme ça, comme tu continues de le faire?
Mais je pense que c'est parce que j'ai commencé l'entraînement et les arts martiaux à un très jeune âge. Donc, c'est inculqué dans ma culture, dans mon mode de vie. Et pour moi, j'ai toujours voulu avoir un esprit sain dans un corps sain. Tu vois, si quelqu'un est intelligent, ben il veut que son corps soit en santé aussi. Parce que si ton corps n'est pas en santé, la santé, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et tu as la santé physique, la santé mentale. Mais c'est pour ça que moi, c'est important de rester en forme. Alors, on vieillit tous. C'est sûr que je ne pourrais pas rester dans la même forme physique pour toujours. Mais le but, c'est d'essayer, surtout à 40 ans, d'essayer de retarder le vieillissement et de conserver cette forme-là, cet athlétisme-là le plus longtemps possible.
Georges, peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ce projet de combat entre Oscar de la Hoya et toi? Est-ce que c'est un projet auquel t'as consenti ou c'est ça?
Oui,
OK. Donc, t'es prêt, toi, à livrer ce combat-là?
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma carrière en tant que combattant élite, pour prouver que je suis l'homme le plus fort au monde en arts martiaux mix, ça, cette partie-là de ma vie est finie. J'ai pris ma retraite de ça. Par contre, je suis pas seulement un combattant élite d'arts martiaux mix, je suis quelqu'un qui a travaillé toute ma vie dans le monde du divertissement. Et quand on est un athlète, ça fait partie du monde du divertissement. Il y a des athlètes, il y en a que c'est des chanteurs, il y en a que c'est des acteurs. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le monde du divertissement. Je ne veux plus compétitionner pour prouver que je suis l'homme le plus fort au monde en arts martiaux mix parce que c'est trop de stress. Ça me tente plus de faire ça. Je sens que j'ai, j'ai passé mon prime. Par contre, si c'est un match exhibition avec des règlements spéciaux, et c'était le cas pour le combat contre Oscar De La Hoya, c'était 8 rounds de 2 minutes avec des gants de 14 onces, donc c'est des plus gros gants. Et Oscar De La Hoya, je prétends pas que je suis un meilleur boxeur qu'Oscar De La Hoya l'a été, parce que ça a été un des meilleurs de tous les temps. Par contre, il est plus vieux que moi, il a compétitionné une catégorie de poids plus légère que moi. Et je pense qu'il y a plus de kilométrage que moi et que ça m'aurait donné une chance de l'emporter, je crois sincèrement. Et aussi, une partie des profits aurait été versée à une œuvre de charité juste pour prouver qu'on se prend, juste pour montrer qu'on se prend pas trop au sérieux. Donc, ça fait partie du divertissement et c'est ça qui se passe. C'est une nouvelle ère. Il y a des événements qui sont organisés pour savoir c'est qui les meilleurs boxeurs, meilleurs combattants ultimes, mais t'as d'autres événements maintenant qui sont organisés pour divertir les gens.
Mm-hmm.
C'est pas d'une façon la plus sécuritaire possible parce que les combattants, ceux qui compétitionnent, ont les mêmes tests médicaux que les vrais combattants professionnels. Moi, je suis pour ça. Il n'y a pas de problème avec ça. T'sais, c'est une autre forme de divertissement.
Oui.
C'est un peu un free.
Aimes-tu ce que tu as vu dernièrement là, qui ressemble à ce que tu décris là, c'est-à-dire les combats contre les YouTubers Mayweather Paul ou Tyson, un combat de vétérans poids lourds? Aimes-tu ce que ça offre comme divertissement?
Moi, je suis pas l'un de ceux qui va dénigrer les frères Paul parce que je pense que c'est des hommes d'affaires extrêmement intelligents et c'est des opportunistes. Et je pense que c'est un peu malhonnête pour les gens qui essaient de les dénigrer parce qu'ils sont souvent jaloux, parce qu'ils n'ont pas fait le même argent que eux, même s'ils ont passé leur vie à s'entraîner. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui les dénigre. Au contraire, je trouve qu'ils sont opportunistes. Et je pense que si les gens qui les dénigrent avaient eu la chance de faire la même chose, ils l'auraient fait. Alors, c'est un peu malhonnête de leur part. Alors, moi, j'ai regardé le combat parce que j'étais curieux, ça piquait ma curiosité et ça m'a diverti. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce combat-là. Et il y a une place pour ce genre de divertissement-là, comme il y a une place pour mm-hmm. des vrais combats de boxe avec des vrais athlètes qui sont le champion du monde et le number one contender. Puis, c'est une autre forme de divertissement, peut-être qui n'est pas faite pour tout le monde, mais il faut arrêter de dénigrer les gens. Puis, si vous voulez les dénigrer, ben tout simplement ne regardez pas le show, ne regardez pas le spectacle, mais arrêtez d'être jaloux. Tu sais, ils ont été opportunistes puis ils ont bien fait leur affaire.
Ben mais hein, puis j'aime la façon dont t'en parles puis que t'approches ça. C'est particulier, mais je veux revenir à la possibilité d'un combat contre De La Hoya. Est-ce que c'est évincé parce qu'on croit comprendre à travers ce qui sort des médias que donc ce serait Dana White et la UFC qui mettraient son veto à ça. Est-ce que c'est bien le cas donc que malgré ta retraite, t'es toujours lié contractuellement avec l'organisation?
Oui, le combat était prévu pour être le 3 juillet. Malheureusement, Dana White n'y a pas voulu. J'ai appelé Dana White, puis Dana White, il voulait pas que je le fasse. J'ai dit à Dana, je vais prendre ça super au sérieux. Je vais aller m'entraîner avec Freddie Roach, à faire un camp d'entraînement, à faire le sparring, le travail avec les champions du monde là-bas. Donc, je vais être vraiment très bien préparé. Puis tu peux être certain que je vais faire bien paraître aussi les combattants du UFC parce qu'il y en a bien d'autres qui nous ont fait mal paraître puis moi, je vais vous faire bien paraître. Dana, la raison pour laquelle il voulait pas, c'est que c'est une business qui compétitionne avec le UFC. Donc, il voulait pas que Trailer prenne un athlète qui a fait sa carrière dans l'UFC puis qui prenne avantage de ça.
Ouais,
exactement. Comme je suis certain que Trailer voudrait pas que l'UFC prenne le Logan Paul ou Jake Paul puis le fasse battre au UFC pour le faire mal paraître. C'est un peu la même chose, tu sais, des deux côtés.
Ouais.
Et moi, je veux paraître comme le gars gentil là-dedans parce que ça me tente pas de rentrer dans une guerre. Je pourrais me battre avec les avocats parce que légalement, c'est OK, je pourrais dire hey, c'est pas du MMA, c'est de la boxe, puis j'engagerais des avocats, mais ça me tente pas de faire ça. Les avocats, c'est sûr qu'eux autres, par nature, j'ai reçu beaucoup d'appels, puis il y a bien du monde qui m'ont dit hey, tu pourrais aller te battre, laisse-moi travailler là-dessus, mais tout le monde veut faire de l'argent là-dedans. Moi, ça me tente pas de me casser la tête avec ça, puis je veux que eux-mêmes règlent leurs problèmes entre eux autres. Fait que peut-être qu'un jour ça va se régler. si ça se règle pas, ben dans une couple d'années, je vais être libre de mon contrat, puis je vais pouvoir faire ce que je veux. Il faut juste être patient, puis je vais rester en forme toute ma vie, alors il n'y a pas de problème.
Donc, si je parais un petit deux, Georges, qu'on va te revoir dans un événement à grand déploiement où tu n'auras pas à prouver que tu es le meilleur combattant d'arts martiaux mixtes au monde, il y a des grosses chances que ça arrive, là, même s'il faut que tu attendes à 45 ans.
Ça peut arriver si c'est pour un, on appelle ça en anglais un novelty fight, un combat d'exhibition qui m'intéresse, qui est pour peut-être une cause, une charité. Pour moi, c'est important de mettre ça pour une charité parce que c'est un freak show. Puis aussi, pour prouver qu'on se prend pas trop au sérieux, tu sais, même si le sport est très sérieux puis les conséquences peuvent être graves, que je vais m'entraîner comme un vrai combat, mais qu'au moins que c'est quelque chose de différent puis que les gens, ils vont être divertis. Puis que ça peut être pour une bonne cause, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas quelqu'un comme qui recherche seulement l'argent. Tout le monde veut de l'argent, mais à un moment donné, t'en as assez pour vivre assez, puis faire vivre ta famille. Je pense que c'est assez. Puis moi, c'est plus pour le challenge, mm-hmm. puis aussi essayer de remettre ça pour une bonne cause. Je pense si on le fait de cette façon-là, c'est intéressant puis ça paraît bien pour tout le monde.
Oui, c'est quand même spécial qu'aujourd'hui, tu puisses envisager de faire un combat contre une personnalité qui n'est pas nécessairement un combattant de carrière et faire peut-être une plus grosse bourse. Puis tu dois en avoir fait des belles en carrière, là, mais tu pourrais peut-être accoter ta plus belle bourse en carrière en faisant un combat comme ça. C'est incroyable.
Il y en a qui se posent la question, mais regardez, même notre premier ministre, Justin Trudeau, a fait un combat de boxe contre un de ses adversaires politiques. Hein, faut pas l'oublier. Donc,
ben oui.
Notre premier ministre l'a fait. Alors, c'est juste pour montrer que ça s'est fait. Ça fait longtemps que ça se fait, ce genre de choses-là. Puis en passant, il a bien paru, il avait gagné son combat. Mais nous, moi, le combat que je voulais faire, c'est un peu la même chose. C'est un combat d'exhibition. À la fin, il n'y a pas de décision des juges, à moins qu'il y ait un chaos ou quelque chose, mais que il n'y a pas de gagnant, puis c'est divertissant. On fait de l'argent à tout le monde, puis c'est remis. Il y a de l'argent aussi qui est remis à une cause de charité. Fait que tout le monde est content là-dedans.
Georges, juste pour compléter sur l'aspect combat, quand t'es venu nous annoncer à tout le monde là que tu prenais ta retraite des arts martiaux mixtes, je me rappelle qu'on avait discuté d'un gars pour qui t'as énormément de respect, Jean-Yves Thériault, qui t'avait conseillé dans ce sens-là que c'était une bonne décision. Mais tu sais, on sentait, puis même il y a eu des rumeurs à tout bout de champ depuis de combats contre Khabib, etc. Fait que puis là, je t'entends parler ce soir, voulant dire c'est fini. J'ai plus rien à prouver là. J'ai l'impression que tu l'as plus comme... comment dirais-je? T'es plus serein avec ta décision parce qu'on dirait que depuis que tu l'avais annoncé, j'attendais toujours que tu reviennes dans un vrai combat. Puis ça, je sais pas jusqu'à quel point ça a passé proche, mais on dirait que t'es plus en harmonie avec ta décision. Est-ce que c'est le cas?
Ce qui s'est passé avec l'affaire de Khabib, c'est qu'on a essayé de faire le combat avec Khabib après que j'ai annoncé ma retraite, parce que j'avais annoncé ma retraite pour des raisons médicales. Et après ça, je suis revenu... Ma condition était je fais une condition qui s'appelle colite ulcéreuse. Et après, j'ai réussi à trouver une façon de mm-hmm. contrer toutes
les irritants.
Tous mes symptômes. Et je me suis senti bien. Et il y avait un nuage qui planait, comme quoi tu disais, il y a un combat contre Khabib, ça pourrait être intéressant. Puis moi, Khabib, ça serait peut-être le seul que je serais revenu pour me battre. Mais dans ce temps-là, pas aujourd'hui, là, maintenant, j'entends dire des nouvelles qui disent là, que moi, j'ai demandé un combat pour Khabib.
Ben oui,
c'est
ben
pas
oui.
Vrai.
C'est pas vrai.
C'est pas moi qui ai demandé un combat pour Khabib. Ce qui s'est passé, c'est que le combat avec De La Hoya, la proposition de De La Hoya est arrivée, j'étais prête à le faire. Dana White a dit non. Puis là, il s'est fait passer pour le gros méchant. Dana White, après, m'a appelé pour me demander si je voulais me battre contre Khabib. Là, j'ai comme... Je trouvais ça vraiment bizarre parce qu'ils ont jamais voulu. Puis là, pourquoi qu'il veut? Là, je me suis dit dans ma tête, il y a de quoi de bizarre là-dedans. J'ai dit, Dana, je vais te rappeler, je vais y penser, je vais te rappeler. Puis j'ai même pas eu le temps de le rappeler que ça a sorti des nouvelles. Puis en fait, Dana White, peut-être qu'il m'a demandé de me battre contre Khabib, peut-être parce qu'il savait que le combat aurait jamais lieu, mais peut-être parce qu'il voulait dire aux journalistes, dire, ah, Georges, il veut pas se battre pour le UFC, alors je vais pas le laisser se battre pour Thriller non plus, tu sais, pour se protéger lui-même, vous comprenez?
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est pas moi qui ai demandé. Peut-être que Dana White a dit que c'est moi qui ai demandé le combat, mais c'est pas moi. C'est lui qui m'a appelé pour me demander si je voulais me battre contre Khabib. J'ai dit que c'était pour penser, puis j'ai même pas eu le temps de le rappeler pour donner une réponse. Moi, j'avais une idée derrière la tête. Je disais, je vais laisser le temps passer parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce que je veux pas vraiment me battre. Je voulais pas revenir. Je serais revenu avant, mais pas là. Mais je savais qu'il y avait de quoi de bizarre, puis là, j'ai eu ma réponse, parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que là, il a appelé le manager de Khabib, il dit « Hey, Georges veut se battre contre Khabib, c'est pas vrai », puis là, eux, ils ont refusé le combat. Fait que Khabib, il a pris sa retraite, j'ai pris ma retraite, c'est fini, mais c'est le UFC Dana White qui a fait ça, peut-être, pour pas avoir de l'air du grand méchant loup, tu sais.
À travers tout ça, t'as une bonne relation quand même avec lui, Dana White, ce que je crois comprendre, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Il semble vouloir protéger un peu l'héritage du UFC, ton héritage de champion, à l'idée que t'ailles te battre d'un combat, là, je veux dire, contre un de la Hoya. Il veut aussi, au-delà des intérêts financiers, Trailer versus UFC, tu le sens-tu soucieux de protéger ton héritage de combattant? Ou ça va pas jusque-là?
Il y a ça peut-être, mais moi, je pense que c'est plus une côté business. C'est parce que c'est leur... Premièrement, ils se détestent. De la Hoya puis Dana White, ils se détestent.
Ah, donc, oui.
Donc, c'est une question d'égo. Quand tu rentres dans... Quand tu deals avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir, c'est des gens... Plus de pouvoir, souvent, ça veut dire qu'ils ont plus ils ont plus d'égo. Ils ont un égo incroyable. Et Dana White, je suis en bon terme avec. C'est encore mes employeurs et je fais le commentateur à RDS.
Évidemment.
Je suis engagé par l'UFC. Donc, je veux pas me mettre en guerre avec l'UFC. C'est pas moi qui vais engager des avocats pour me mettre en guerre. C'est sûr que j'aurais fait beaucoup d'argent avec ce combat-là de Oscar. Mais ça me tente pas d'avoir le stress et le mal de tête de me mettre en guerre avec eux autres, même si peut-être je pourrais le faire. Je veux qu'ils règlent leurs problèmes entre eux autres. Le président de Trailer et de UFC, c'est des hommes qui ont beaucoup de pouvoir, puis qui ont les ressources, ils peuvent trouver un arrangement, puis peut-être que ça va s'arranger, mais si ça ne s'arrange pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de regrets dans ma vie, puis je vis très, très bien, puis je suis très heureux.
Pas fin du monde pour toi, c'est bien expliqué. Puis ce que j'adore de tes vidéos sur Instagram, c'est que tu t'es entraîné tout l'hiver dans toutes sortes de conditions, à l'intérieur, à l'extérieur. Tu sais, tu t'as fait vivre un peu la réalité météorologique du Québec. Je trouve que, on est fiers de où on est puis d'où on vit, puis j'aimais ça que tu colportes ça. Puis j'enchaîne en disant, est-ce que tu es un amateur de hockey? Regardes-tu un petit peu de hockey du Canadien ces temps-ci, Georges? Ou pas vraiment?
Je suis pas un amateur de hockey, tu sais, je regardais pas vraiment le hockey, surtout pas durant le COVID, mais je sais qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis je trouve ça, je suis très heureux de voir que le Canadien a du succès. Puis honnêtement, ça fait du bien à la ville, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'humeur des gens. Puis là maintenant, je vais peut-être commencer à le regarder quand je vais avoir du temps de libre. Parce que là, je pense qu'ils sont en demi-finale maintenant, alors ça va être intéressant.
Ouais,
on va voir ce qui va se passer là avec le. Peut-être que le fait que maintenant les joueurs de hockey peuvent traverser les frontières, peut-être qu'ils vont changer aussi leur idée avec pour les gens qui, s'ils sont vaccinés, ils vont pouvoir traverser la frontière. Tu sais, fait qu'on va voir ce qui va se passer.
Possiblement, as-tu hâte aussi que les sports de combat aient l'autorisation d'accueillir des spectateurs aux États-Unis, c'est de plus en plus le cas. Puis au Canada, je sais que tu as beaucoup d'amis, évidemment, dans l'industrie de la boxe, dans l'industrie des arts martiaux mixtes.
Oui, bien sûr, exactement. Tu sais, je sais pas, je suis pas un politicien, je sais pas la bonne façon de faire ça. Je suis pas quelqu'un qui est qualifié pour répondre à cette question-là, mais comme tout le monde, j'ai bien hâte que ça se règle, cette histoire-là.
Oui, puis quand même, tu t'aimes en blond, en tout cas, t'es pas mal cute, mon Georges.
Merci. Ouais, mais en fait, c'est quand on vieillit, on essaie de rajeunir. Quand on est jeune, on essaie de vieillir. Donc là, je suis plus vieux, j'essaie de me rajeunir. Donc les cheveux, ils font la job en ce moment.
Absolument. Georges, merci beaucoup de cette entrevue. C'est très apprécié. Puis merci du petit coucou que t'as fait à mon garçon juste avant qu'on enregistre. Je pense que t'as fait un heureux. T'en as fait deux. Tiens, le père aussi.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.